Tout comme avec le Mali, l'Éthiopie fait également l'objet d'une campagne de désinformation visant l'armée éthiopienne. Outre les infos concernant des présumés civils tigréens qui auraient été tués donc par les militaires et des éléments des forces populaires, maintenant on assiste à une nouvelle affaire qui remonte à la surface, celui du meurtre de trois employés de MSF. Depuis le meurtre de Maria Tedros et Yohannes en Éthiopie le 24 juin 2021, MSF s'efforce de comprendre les circonstances de ces assassinats. Un article du New York Times, paru jeudi 17 mars, accuse ouvertement les forces de défense nationale éthiopiennes. Paula Gil, donc présidente de Médecins sans frontières Espagne, interpelle le gouvernement sur sa potentielle implication et réclame donc des réponses. Ce meurtre a eu lieu dans le Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, le 24 juin 2021. L'article attribue la responsabilité de ces meurtres intentionnels aux forces de défense nationale éthiopiennes et fait état de l'implication directe d'un de leurs commandants. Tant publiquement qu'en privé, MSF a pris contact avec les deux parties présentes dans la zone où les meurtres ont été commis. Le NDF et le Front Populaire de Libération du Tigré, donc le TPLF, et nous leur avons donc demandé des questions spécifiques concernant leur implication potentielle. Nous leur avons également demandé, affirme MSF, de partager les conclusions de leur enquête et examen avec nous, mais aussi avec les familles de Maria Tedros et Yohannes. Et à ce jour, nous ne disposons toujours pas de précision sur les circonstances qui ont conduit à ces meurtres, ni d'une reconnaissance de responsabilité. Et grâce à nos recherches, nous savons donc qu'une enquête de la RFDE est en cours et il nous semble urgent qu'elle partage ses conclusions, comme l'affirme MSF. Bref, encore une affaire dans laquelle une enquête doit être faite, mais les médias occidentaux se pressent de pointer du doigt rapidement l'armée éthiopienne et non les rebelles. Car ceux qui ont tout intérêt à commettre ce genre de meurtre, ce sont bien les groupes rebelles basés dans la région du Tigré, comme ceux du TPLF, et non l'armée éthiopienne. Une des manœuvres sournoises des médias occidentaux, c'est également de rabaisser l'armée éthiopienne au même niveau que les groupes terroristes rebelles, en annonçant avoir consulté les deux parties en conflit, de demander des comptes aux deux. Les médias mainstream ont l'habitude de mettre le doute dans les versions officielles et de donner de la crédibilité aux groupes rebelles ou terroristes. Et c'est une manœuvre courante chez eux. La question à se poser principalement, c'est que les faits donc se sont produits en juin 2021, donc le conflit n'était pas encore terminé. Alors que faisaient ces trois employés de MSF dans la région du Tigré, alors que le gouvernement fédéral éthiopien avait bien interdit l'accès aux ONG et à l'ONU dans cette région? Au Cameroun, par exemple, MSF a été suspendu dans les zones de l'extrême nord du pays pour leur lien avec les groupes séparatistes anglophones. MSF leur apportait des vivres et des soins. Les ONG sont souvent accusées de liens avec les groupes terroristes et les groupes rebelles, mais aussi de transmettre de faux rapports à la communauté internationale, histoire de semer la zizanie dans les pays africains cibles. Ce genre de scénario n'est donc pas nouveau et tout comme les médias occidentaux sont accusés de relayer de fausses informations au monde entier, les ONG sont également liées à ce genre de pratiques. Et si plusieurs pays africains, comme par exemple le Burundi, les a tous mis dehors, ce n'est pas par élan dictatorial, comme le prétendent les médias occidentaux, mais bien parce qu'elles ont un rôle d'ingérence dans les affaires intérieures des pays africains sous la couverture de l'aide humanitaire. Les ONG, la communauté occidentale et leurs médias n'ont décidément plus aucune crédibilité aux yeux des Africains.
En effet, nous avons vu les annonces faites par le gouvernement malien de suspendre RFI et France 24. Nous considérons que c'est inacceptable. Nous déplorons cette décision et les accusations infondées en s'attaquant à la liberté de la presse, à la liberté d'informer et d'être informé. La junte continue et confirme sa fuite en avant.
Un discours reflétant un culot démesuré. Le Mali a montré qu'il est souverain et il continue dans sa voie. Si la communauté internationale ne l'a toujours pas compris, c'est à eux d'en payer le prix fort. Les militaires français, danois et autres n'étaient visiblement pas au courant que le Mali était un pays souverain et ils en ont fait les frais. Ils ont tenté de s'aventurer au Mali comme si le pays leur appartenait, sans tenir compte de l'avis des Maliens. Résultat des courses, ils ont été mis à la porte et c'est aussi simple que ça. Et maintenant, c'est au tour de leurs médias. Hier, l'info est tombée. Le gouvernement malien a décidé de suspendre RFI et France 24 à cause des allégations qu'ils diffusaient sans aucune éthique et sans aucun scrupule contre l'armée malienne. Et en plus, c'est officiel. La maison de presse du Mali prend acte de la décision de suspension de la diffusion de RFI et de France 24 par le gouvernement de transition. La maison de la presse souhaite que cette décision inédite s'inscrit conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali, notamment la saisine de la Haute Autorité de la Communication. La maison de la presse invite à nouveau tous les médias nationaux et étrangers à davantage de responsabilités et d'œuvrer à soutenir les forces armées de sécurité dans le noble combat contre le terrorisme qui, pour rappel, est un combat international. La maison de la presse reste déterminée à défendre la liberté de la presse dans le cadre des intérêts supérieurs du Mali, donc gare aux autres médias qui s'adonnera à jeter le discrédit ou dénigrer le Mali. La liberté de la presse, oui, mais pas la propagande gratuite, dénigrante. En effet, le gouvernement malien a rejeté les accusations d'exaction qui seraient commises par les forces armées maliennes contre les civils et les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dont elle serait rendue coupable, dans les médias mainstream en tout cas, a-t-il annoncé dans un communiqué en date du 16 mars. Le gouvernement a qualifié ces allégations de sans fondement et en déduit une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les FAMA. Le communiqué poursuit que les autorités maliennes ont engagé une procédure visant à suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali, ainsi que leur plateforme digitale. Et par ailleurs, la presse malienne n'a plus le droit de relayer les articles de ces deux médias français ainsi que leurs émissions. Le 8 mars dernier, Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, faisait savoir devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU de l'ouverture d'une enquête sur des présumées graves violations du droit international, des droits de l'homme et du droit humanitaire commises, selon eux, par les forces de défense et de sécurité maliennes. Un article donc de RFI publié en série les 14 et 15 février faisait également état des précédentes accusations. Et enfin, le 15 mars, Human Rights Watch publie un rapport accusant aussi les FAMA de vagues exécutions de civils dans le centre du pays. Pour le gouvernement, il ne s'agit que de la synchronisation d'un matraquage médiatique. Si ces organes occidentaux veulent réellement faire leur travail, il serait déjà plus judicieux de commencer par une enquête sur les nombreuses exactions commises par l'armée française durant ces 10 dernières années au Mali, au lieu d'essayer absolument de vouloir discréditer l'armée malienne aux yeux des Maliens. Ce qui est tout de même aberrant, c'est qu'ils croient encore pouvoir réussir à discréditer les FAMA aux yeux des Maliens avec ces vieilles méthodes de colons. Et à chaque fois, leurs propres coups se retournent contre eux. Ils ont tenté de nouveau cette méthode et voilà que les médias de propagande français se voient éjectés du pays. En ces temps où les Occidentaux sont tous à la merci de l'hégémonie américaine qui consiste entre autres à lancer la machine de propagande, et on le voit en Afrique, mais également dans l'affaire russo-ukrainienne. Et cette machine n'a plus aucune limite. Les beaux discours concernant la liberté de la presse ou la liberté d'expression sont morts depuis longtemps. RT France et Sputnik en ont également fait les frais. Donc, les Occidentaux veulent également avoir le monopole des médias en mettant hors jeu les médias qui les gênent. Eh bien, le reste du monde devrait également avoir ce même droit. Outre le fait incontestable qu'en suspendant RFI et France 24, le Mali impose sa souveraineté au monde entier, on pourrait même dire que cette suspension est également un signe de solidarité pour RT et Sputnik. Quoi qu'il en soit, les anciennes techniques des médias occidentaux concernant l'Afrique ou encore même le Moyen-Orient ne prennent plus. Les gens sont bien informés, ils ne tombent plus dans ces pièges grotesques et ce fait est également incontestable. Après que la Côte d'Ivoire et le Niger ont été pris par les États-Unis et son supplétif la France, les plans visent particulièrement le Burkina Faso afin au final d'encercler complètement le Mali. Tout est mis en place pour que le Burkina soit maintenant asphyxié. Les attaques terroristes se multiplient dans la région stratégique et les axes routiers principaux sont les cibles privilégiées de ces groupes. Ces derniers jours, les groupes terroristes, la CDAO et en coulisses donc la France, mettent la pression sur le nouveau gouvernement burkinabé. Attaques terroristes dans les zones stratégiques, attaques visant surtout les VDP. Bref, la pression semble vouloir s'accroître contre Ouaga. La CEDEAO insinue vouloir également revenir sur ses décisions concernant la période de transition dans le pays. Cet organe contrôlé par les Occidentaux s'est dit jeudi un peu inquiète de la durée de 3 ans décidée pour la transition au Burkina Faso, où l'armée a pris le pouvoir fin janvier, mais a assuré qu'elle n'abandonnerait pas le pays. La CEDEAO demande donc que le gouvernement de transition fournisse une feuille de route claire de ses activités pour les prochains 36 mois, a-t-elle ajouté. La CEDEAO avait suspendu le Burkina Faso de ses instances à l'issue du putsch. Et de plus, nous voyons également les attaques terroristes se multiplier et surtout dans des endroits très stratégiques. Au point où, dans un article dans certains médias, les attaques terroristes donc devraient causer une inflation. Déjà frappé de plein fouet par le terrorisme, le Burkina doit affronter l'épreuve de l'inflation, elle-même causée en grande partie par l'insécurité. Et selon un expert en sécurité burkinabé, cette situation peut être expliquée par plusieurs raisons. La première raison, en janvier, donc, il affirme qu'on avait eu une instabilité politique qui fait que les opérations et les actions des forces de défense et de sécurité étaient au ralenti dans certaines zones, dans l'optique de redéployer les forces, remettre en place une nouvelle stratégie. La deuxième raison qui explique cela, c'est le fait que de plus en plus, on a remarqué que les groupes terroristes ont gagné en technicité, en nombre et en connaissance de terrain. Ce qui fait aujourd'hui, ils ont perfectionné leur système de renseignement, ils sont de plus en plus très bien équipés, ce qui fait qu'ils ont donc un maillage de plus en plus grand sur le territoire. Donc, c'est ce qui explique le fait que la situation continue de dégénérer et que les groupes armés gagnent du terrain. Et sans oublier que ces groupes armés terroristes ont dans leur stratégie de cibler premièrement les VDP qui étaient les plus actifs. Du coup, les VDP sont essoufflés parce qu'ils ne sont pas pris en charge donc, et ils ne sont pas équipés et entraînés. Leur stratégie à l'endroit des VDP a consisté à kidnapper leurs membres de famille, à prendre pour cible principale les VDP de telle sorte qu'aujourd'hui, beaucoup ont abandonné. Leur stratégie à l'endroit donc des forces de défense et de sécurité, c'est de miner les voies de communication, les instruments de communication et de s'en prendre aux points sensibles d'une commune qui sont généralement l'ONEA, donc l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement, donc la SONABEL, la Société Nationale Burkinabé de l'Électricité et surtout l'aérodrome, comme on a vu celui de Ouigoua. Donc c'est une stratégie donc, qu'ils ont mis en place et qu'ils sont en train de dérouler. En suivant un peu les incidents de nature terroriste sur l'axe Dori-Ouagadougou de janvier 2022 à aujourd'hui, nous avons pu répertorier près de 60 incidents sur ces axes. Et quand vous répertoriez un tel nombre d'incidents, ça veut dire que les groupes armés terroristes étaient déjà en train de préparer la prise de cet axe et ils étaient en train de mettre une stratégie pour couper cet axe. Ces incidents sont des attaques aux abords de cet axe dans les villes donc, entre Kaya et Dori et cela a aidé par la présence des nids de poules sur l'axe Kaya-Dori. On a aussi remarqué que cet axe leur sert de passage ou de lien entre le Sahel et l'Est et au niveau de Tougri ou de Taparko, ils peuvent aller directement dans la Gnagna. Cet axe est stratégique pour eux, ils ont construit depuis plus de 4 mois la stratégie pour couper cette route et ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient sauter 1, 2, 3 mines sur l'axe. Les populations ne vont plus l'emprunter alors que c'est un axe hautement stratégique qui permet de desservir tout le Sahel à l'exception de Djibo. Bref, les groupes terroristes à la solde de l'Occident ont donc comme plan d'asphyxier le Burkina Faso de l'intérieur et tout ça dans le but donc, de forcer le gouvernement à se tourner vers les Occidentaux et leur permettre de venir déployer des bases militaires dans le nord et particulièrement donc à la fameuse frontière donc des zones des trois frontières que Barkhane et compagnie n'ont pas encore pu prendre. Cette frontière comprend les villes de Gao au Mali, de Tillaberi au Niger et d'Ori au Burkina Faso. Tracez un cercle reliant ces trois points et vous avez la zone des trois frontières financée par le ministère français des Affaires étrangères, toute tracée. suite à la nouvelle politique du Mali qui consiste à chasser les troupes militaires occidentales de son territoire, il est clair que le point de Gao va être perdu. Mais ils n'ont toujours pas réussi à prendre le point d'Ori et actuellement, ce sont les terroristes qui doivent s'en charger dans un premier temps. Avec ces offensives, on peut voir que le gouvernement burkinabé n'est visiblement pas si conciliant que les Occidentaux pouvaient le croire. Ils craignent clairement un remake du Mali. Et la raison, c'est donc le pouvoir qui est entre les mains des Burkinabés. Le peuple a récupéré sa souveraineté, on a bien pu le voir ces derniers mois, et peu importe qui vient au pouvoir, s'il suit la volonté du peuple, il reste, sinon les Burkinabés vont s'en occuper. C'est ce que les Occidentaux n'arrivent visiblement pas encore à saisir. Ils ne peuvent plus avoir d'influence dans des pays comme au Mali ou au Burkina Faso. Cette ère est révolue et on ne le répétera jamais assez. D'après le gouvernement ivoirien, 13 centres de formation artisanale seront mis en place dans 13 régions du pays. Le programme vise à faciliter le regroupement des artisans par branche et secteur d'activité et à valoriser leur métier. Le ministère ivoirien de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel a annoncé la construction prochaine de 13 centres artisanaux et d'une casse pour les ferrailleurs. L'information a été rendue publique via un communiqué de presse du gouvernement publié donc ce mardi. Ces centres vont coûter un peu plus de 87 millions de dollars pour la casse et il s'agit de la construction d'une infrastructure moderne évaluée à 45,2 millions de dollars. Et elle sera bâtie sur 20 hectares et est destinée à accueillir l'ensemble des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. D'après le ministre de tutelle, c'est un programme qui permettra non seulement de construire des établissements qui vont regrouper les artisans par branche et secteur d'activité, mais aussi de créer une plateforme pour mettre en valeur leur métier, mettre les artisans en relation avec les populations. À terme, l'initiative vise, selon lui, à référencer les artisans. Déjà en mars 2020, le ministre de l'artisanat d'alors donc, avait initié le projet avec le consortium Altea Weidong Chocotte du Bost et le groupe Weitk. Au Malawi, l'arachide est la principale oléagineuse cultivée. À l'heure où le gouvernement veut renforcer la valeur ajoutée générée localement par le secteur, la plante se positionne comme une alternative de choix. Dans le pays, une usine de transformation d'arachide a été inaugurée le lundi par le président, installée donc dans la zone industrielle de Kanengo. Basée à Lilongwe, l'unité a nécessité un investissement de 3 millions de dollars de la part de la société agroalimentaire Pyrus Agriculture Limited. Dotée d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes d'arachide par jour, l'usine fabriqua plusieurs produits dérivés comme l'huile, le beurre et la farine. Et elle abritera en outre une ligne de production de briquettes de charbon de bois fabriquées à partir des coques rejetées comme déchets. Pour son approvisionnement en matières premières, l'unité pourra compter dans un premier temps sur un réseau d'environ 7000 agriculteurs sous contrat qui devrait s'étendre jusqu'à 30 000 producteurs à terme. En ce qui concerne les retombées sociales, près de 2000 emplois sont prévus pour être créés. Au Malawi, la culture de l'arachide s'effectue sur une superficie comprise entre 200 000 et 400 000 hectares et est l'apanage de 100 000 exploitants. Dans le pays, les exportations de la matière première ont généré 39 millions de dollars en 2020, selon les données compilées sur la plateforme UN Comtrade. Première puissance industrielle du continent, l'approvisionnement électrique est le talon d'Achille de l'Afrique du Sud. Confrontée au cycle de délestage, les grandes compagnies font de plus en plus le choix de l'autonomie énergétique et du renouvelable. South African Breweries, donc le plus important brasseur au monde, a signé la semaine dernière un accord d'achat d'électricité avec la compagnie BioTwat, une entreprise d'énergie donc renouvelable appartenant à des femmes noires. L'énergie sera produite à partir de biogaz. Le biogaz sera donc produit à partir des déchets collectés à Cape Dairy, l'une des plus grandes exploitations laitières de la nation arc-en-ciel avec plus de 7000 vaches. Nation la plus industrialisée du continent, les performances calamiteuses du réseau électrique constituent le talon d'Achille de l'Afrique du Sud. Et face à cette situation, la Compagnie nationale de production et de distribution d'électricité n'en mène pas large, confrontée à la vétusté de ses infrastructures, à une dette de 26 milliards de dollars et au défi de la transition énergétique. À l'occasion de la 13e édition de la Journée de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, le président Paul Biya du Cameroun a de nouveau plaidé pour une libre circulation effective des personnes et des biens dans l'espace sous-régional. L'approfondissement de notre intégration reste un levier essentiel. Notre objectif est la libre circulation transfrontalière des personnes et des biens, a commencé le chef de l'État dans un discours. Et pour le président Paul Biya, par ailleurs président en exercice de la CEMAC, nos textes communautaires l'ont clairement consacré. Des efforts additionnels sont tout de même nécessaires pour en assurer une mise en application réussie à la satisfaction de nos peuples. Cette libre circulation est d'autant plus importante à rendre effective que les pays de la CEMAC sont engagés dans la relance économique post-Covid-19, souligne Paul Biya. En effet, la relance économique post-Covid est notre principale préoccupation et cette relance souhaitée doit reposer sur le renforcement des échanges économiques entre nos États, a fait savoir le président de la CEMAC.